Sous respect 1200, l'atmosphère est malsaine, respirer c'est pesant. Comme toujours j'étais hal quand y'avait du grabuge. Mes visites à l'hosto, mes mandats pour graduge. Personne ne te rassure, ta langue boisse au ventre. Et j'en ai vu se pendre la gorge à la ceinture. J'ai l'humour d'un corbeau, j'fracture tes guiboles. 2005 on s'immole à la gare de Bordeaux. Échappé du landau, fils de Rosemary. Le savoir est une arme, les grosses bastos s'arrivent. Aval en fusil, black metal monotone. Ça parle même plus musique mais seulement d'octogone. J'ai le son qui cartonne, tous les nages disparaissent. Juste un premier album, les gamins disparaissent. Photo si t'es fidèle, je te rends l'appareil. Ma fille c'est ma richesse, rien ne compte à part elle. Bonheur couleur pastel, mignonne tête de mort. Allergie tricolore, big up à mon scalpel. Artiste en décalage, anti superstar. Gilet jaune en kevlar, sans pare-balles ni calage. Frère, parfois je sature, j'en peux plus ma peine. Prends le 2 si je me sens comme sur Saturne. Les radios, la friture, électromagnétique. Ton style est pathétique, t'as pas d'écriture. Hardcore paraît-il, j'suis dans tous les HP. J'suis quelqu'un d'agressif, dans tous les aspects. J'suis blasé, c'est fini, j'ai pas taillé des pipes. J'ai deux, trois ennemis qui viennent pomper mes clips. Milieu militant, les victimes parlent de s'beul. On a tous moins de gueule quand c'est l'heure du jugement. J'suis le mec numéroté, j'fais des cauchemars étranges. J'ai vu mon corps flotter sur le delta du Gange. Ça parle de braquage, ça fait du shopping. Lâcher dans les entrailles comme Martin Luther King. J'ai toujours fait ma thune sans salaire ni patron. Garder ma posture sans demander pardon. Chacun sa part d'ombre, lunaire attitude. Loin des salamalecs, de leur belle platitude. Authentique pas si sûr, toi tu vois des génies. Je vois des rageux pénibles et de l'ingratitude. T'inquiète on s'habitue, le crachat le bitume. Du Valium dans l'absinthe et les MC titus. Frère, parfois je sature, j'en peux plus ma peine. Prends le 2 si je me sens comme sur Saturne. Nosferatu.
The haunting and eternal story. Nosferatu, the vampire, the undead master. Nosferatu, the immortal shocker. Nosferatu is counting Dracula from darkness to dawn. Nosferatu.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, sur 89.4, et c'est Jeudi Noir qui commence, animé aujourd'hui par Jean Mathias et José Oplatine, qui vient de vous faire écouter un morceau de Seth, ce rappeur qu'on apprécie, qui s'intitule Nosferatu, et comme José a un sens absolument délirant de la propos, vous devinerez qu'on va parler de cinéma, évidemment. Et il est trop fort, ce José. Et c'est Jean Mathias donc, qui a choisi le livre. Alors, c'est un gros livre, blanc,
avec une photo
aussi, d'un homme qui touche une femme qui semble allongée et endormie ou morte, on ne sait pas, de Siegfried Krakauer. Et c'est De Caligari à Hitler, Alors, je vois pas bien le rapport entre les deux. Et, mais bon, c'est une histoire psychologique du cinéma allemand. Ça a été édité chez Klinsic, je sais pas comment ça se prononce. 2019, on est encore dans l'actu, ou presque. Et donc, c'est une histoire du cinéma allemand qui va se situer entre 1919 et 1933.
Ouais,
c'est ça l'idée. Ça, ouais. Donc, ça doit recouvrir un peu d'expressionnisme, un peu de réalisme et beaucoup de films en noir et blanc. Ouais. Ça parle ou ça parle pas ?
La plupart sont muets.
La plupart sont muets. Donc, alors moi, je ne l'ai pas lu, donc je vais faire l'idiot utile ce soir.
Vas-y, fais ça, rentre utile.
Bah, la première partie est toujours facile, la seconde est plus compliquée. On verra.
Non, donc, bah, alors, d'abord, deux mots sur le livre, effectivement. Donc, tu dis de, et l'auteur, hein, Siegfried Krakauer, ouais. De Caligari à Hitler. Alors oui, l'édition là, chez Klinsic, elle est récente, mais le bouquin n'est pas du tout récent. C'est un, oui. En fait, c'est un classique déjà même assez ancien.
J'avais dit dans l'actualité, Jean-Mathias, si ouais, tu casses tous mes effets. Le bouquin est de 1947.
Bon. Ouais. Mais alors, il y a une actualité du livre, et ah, on vient de la découvrir pas plus tard qu'il y a 3 minutes. C'est qu'en fait, il y a une adaptation au cinéma qui a été faite, alors là, pour le coup, en 2022, alors que je n'ai pas vu, mais qui visiblement met en perspective les analyses du livre, avec le même titre, hein, de Caligari à Hitler. Alors, c'est quoi le d'abord, deux mots sur l'auteur. Siegfried Krakauer, c'est un intellectuel berlinois, donc de l'entre-deux-guerres, d'origine et de culture juive, qui est en fait contemporain des grands intellectuels allemands de l'époque, à savoir Walter Benjamin, ou des gens comme Adorno, qui sont connus pour être des philosophes marxistes de très haut niveau, un petit peu élitistes, très axés sur une espèce de critique de la culture, surtout dans les années de la République de Weimar, donc après la Première Guerre mondiale, et qui après, en fait, assiste un peu effaré à la montée montée du nazisme, et puis à l'accès d'Hitler au pouvoir, et qui vont ensuite engager toute une réflexion pour essayer de savoir comment, effectivement, cette espèce de catastrophe nazie en Allemagne a été possible, alors qu'on a un pays qui était hautement cultivé, hautement scientificisé, hautement développé du point de vue économique, éducatif, etc., etc. Et donc, ils vont essayer d'avoir une espèce de lecture comme ça, un peu rétrospective de cette catastrophe, en essayant de voir, finalement, le nazisme comme un aboutissement, un peu un effet pervers, pourrait-on dire, du progrès, de la science, de la connaissance, de la civilisation elle-même. C'est des choses, des analyses qui sont assez contestables, et puis avec lesquelles on n'a pas trop de sympathie, nous, ici, sur Jeudi Noir.
C'est-à-dire qu'ils aboutissent à des conclusions qui sont un peu similaires à celles de Heidegger, qui critique par ailleurs.
Bref. Donc voilà, il y a une critique du progrès, critique de la science.
Même combat.
Voilà. Et alors, Siegfried Krakauer, il est l'auteur, et dans ce mood-là, hein, quand même. Hein, c'est-à-dire la particularité, c'est que c'est pas quelqu'un qui se pense comme un théoricien du tout. C'est plus quelqu'un qui est dans un style d'essayisme journalistique, on va dire. D'ailleurs, il a beaucoup de chroniques dans les journaux allemands. Et c'est quelqu'un, en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers, si tu veux, à essayer de chroniquer, je dirais, le développement et l'avènement d'une culture de masse, en fait, en Allemagne. Donc, culture de masse, que ce soit au niveau des loisirs, du musical, du sport, mais en particulier du cinéma. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va justement réfléchir là-dessus, un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire au fur et à mesure, si tu veux, que le système de la culture de masse se met en place. Et c'est vrai que ça commence un peu avant la Première Guerre mondiale, mais ça va prendre son essor à ce moment-là. Et donc il fait il réfléchit là-dessus, il travaille là-dessus. Il est moins chiant à lire que les théoriciens dont je parlais, c'est-à-dire qu'effectivement c'est plus fluide et puis plus circonstancié aussi souvent quand il fait ses analyses. Mais il n'empêche qu'il est pris dans cette même catastrophe là, si tu veux, de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, avec en fait ce qui est très marquant pour tous ces auteurs là, c'est, si tu veux, l'échec d'abord de la Révolution allemande, c'est-à-dire que il y a cet échec de 1918 juste après la Première Guerre mondiale et la chute de l'Empire. De l'Empire prussien, et il y a cet échec de la révolution spartakiste, et ensuite c'est un échec qui va mettre du temps, avec des répliques qui vont s'étirer comme ça sur des années, hein, avec un mouvement ouvrier extrêmement puissant, un mouvement ouvrier révolutionnaire extrêmement puissant, et puis aussi un mouvement social-démocrate anti-révolutionnaire extrêmement puissant. Donc tout ça va travailler en fait la société allemande en profondeur, mais d'abord il y a ça, cette espèce d'échec, et en fait tous ces auteurs-là ont en commun de lire, si tu veux, l'arrivée d'Hitler comme une espèce d'aboutissement de l'échec de la révolution, c'est-à-dire qu'il y a la révolution qui foire, l'histoire. Et en fait, il n'y a pas de solution non révolutionnaire au problème de l'Allemagne à l'époque. Et comme effectivement cette révolution est barrée, en quelque sorte, il y a un moment donné, bah, ce qui va se mettre en place, c'est une réaction autoritaire, démesurée et folle, hein, par certains aspects. Mais en fait, elle est déjà au travail, finalement, dans l'échec de la révolution. C'est le côté un peu, voilà, marxiste, on va dire, de leur façon de voir. Alors, il est un peu dans un schéma comme celui-là, d'où le titre, j'en viens au titre maintenant, de Caligari à Hitler. Alors, Caligari, c'est quoi? C'est le cabinet du docteur Caligari, c'est un très grand classique du cinéma muet allemand, 1920-21, si je ne me trompe pas, de Robert Wiener, associé à l'expressionnisme, comme on dit, on va en parler un peu tout à l'heure. Et c'est un peu le coup d'envoi, je dirais, de ce qu'on a appelé les années fastes du cinéma allemand, qui est effectivement assez impressionnant. Alors juste, bon, c'est pas, ça fait un peu cuistre de dire ça maintenant, mais vraiment, si vous avez l'occasion de vous plonger dans cette filmographie là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cinéma de Weimar pour le coup, hein, qui est un cinéma souvent muet. Alors peut-être j'ai cité quelques réalisateurs connus quand même, des gens comme Lubitsch par exemple, et Ernst Lubitsch qui a ensuite fait une carrière aux États-Unis, comme Murnau évidemment, qui va aussi faire une carrière après à Hollywood, comme Fritz Lang, même schéma, comme Pabst, alors qui est un peu moins connu mais qui est très important, y compris dans ce livre-là. Et qui lui va pas faire de carrière à Hollywood, mais qui va revenir en fait dans l'Allemagne après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et qui va finir du coup un peu petitement sa carrière, alors qu'il produit des films assez impressionnants et très intéressants pendant les deux décennies d'avant. Donc c'est ces noms-là en fait, tiens, voilà. Et donc le cabinet du docteur Caligari, c'est considéré comme un des premiers films qui lance le bal en fait de cette espèce de production de films tous plus inventifs et tous plus impressionnants les uns que les autres. Alors ça, c'est donc avec l'idée, donc du coup, c'est cette espèce d'évolution, si tu veux, comme si on pouvait voir en fait petit à petit les signes de l'arrivée d'Hitler au pouvoir dans le médium cinématographique, dans la production des films allemands des décennies précédentes. C'est l'aspect qui est le moins convaincant en fait du livre, cette espèce de, tu vois, de ouais, voilà, de sens de l'histoire que tu peux voir écrit à l'avance, de le côté un peu prophétique, si tu veux, du truc, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Alors c'est à dire que ça se présente, voilà, le sous-titre, tu l'as dit, c'est une histoire psychologique du cinéma allemand. Alors en fait c'est un sous-titre un peu piégeux, parce que c'est historiquement c'est pas forcément très très concluant.
Psychologiquement
c'est une psychologie bizarre, parce que si tu veux, l'idée du livre, en fait, c'est de voir quoi? C'est de voir finalement l'imaginaire du cinéma et de la production cinématographique comme une espèce de fantasmagorie collective. T'as un côté un peu comme ça, c'est-à-dire un peu comme si tu veux, le public était dans une espèce de situation d'hypnose, quoi, tu vois, si je prends cette image-là, et comme si t'étais dans une espèce de, voilà, d'univers fantasmagorique où tu pouvais du coup voir se manifester les pulsions, les désirs, les comportements, les aspirations, les limites aussi de la culture finalement, et de l'imaginaire de tout un peuple. Et ça, c'est une idée qui, pour le coup, est intéressante. Ça, c'est une idée qui est intéressante, mais c'est pas de la psychologie. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est pas de la psychologie expérimentale, c'est pas de la psychologie de masse non plus, ou alors à très très gros traits. Donc c'est un espèce de truc un peu hybride. Donc voilà, le côté, voilà, on identifie les signes, si tu veux, voilà, de la catastrophe nazie à partir de 1920, et dès effectivement les situations ou les types de personnages ou les thèmes qui sont filmés dans Docteur Caligari et toute la production qui va suivre derrière. Ça, bon, je sais pas, c'est pas le peut-être, quoi, voilà, mais ouais, je crois pas trop, si tu veux, à cette espèce de grande fresque historique là, enfin, tu vois, voilà le topo. Mais par contre, c'est un rapport au cinéma qui est super stimulant. Parce que, si tu veux, notamment par rapport à ce type de cinéma-là. Alors, tu l'as dit, voilà, Camille Docteur Caligari, c'est ce qu'on appelle un des premiers films expressionnistes. Alors, l'expressionnisme allemand, c'est un mouvement un peu global, hein, mais dans le cinéma, ça va durer quelques années, c'est très court, en fait. Hein, mais c'est marqué par quoi, en fait? C'est, bon, un jeu beaucoup sur les ombres et la lumière, beaucoup, avec un travail sur les ombres, voilà, sur l'obscurité, sur l'hyper-expressivité des visages, sur l'exacerbation des sentiments extrémisé, je dirais, voilà, dans les sentiments des personnages, des situations. C'est le début du film d'horreur. Alors, on va en parler, évidemment. L'autre grand film de cette période-là, c'est Nosferatu, justement, de Murnau, un petit peu avant, juste après, mais c'est, voilà, les années 20. Et là, on a effectivement, voilà, des films de vampires, voilà, où on a une espèce de jeu sur l'éclairage, une espèce de monde qui est très irréalisé, si tu veux, enfin, irréel, je dirais, je sais pas comment il faut dire. Et là, du coup, ça marche, si tu veux, de voir le cinéma ou d'aborder le cinéma avec ce type de film et ce type de cinéma-là et d'esthétique de film comme une espèce de fantasmagorie où finalement tu te retrouves en tant que spectateur un peu en roue libre. Tu vois, face à des situations, des sentiments, des personnages, etc. Et où du coup, bah, effectivement, tu lâches un peu comme dans une cure analytique. Un peu, tu vois, c'est ça le point commun. Il est là. Hein. Et alors, je sais pas si c'est thérapeutique ou quoi que ce soit. En fait, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est marrant.
Cathartique, comme dirait l'autre.
Un côté un peu comme ça. Alors là, c'est pas cathartique parce que tu vois, ça finit mal. Donc en fait, c'est plutôt l'inverse. Voilà.
Non, mais la crise, c'est le moment.
La crise,
ça peut finir mal. Alors,
Par contre, il écrit ça en 41. Donc si tu veux, la crise, elle est en cours. Hein, quand il écrit ça, et lui, il a un peu les boules. Il est parti, donc il s'est enfui. Il doit fuir l'Allemagne. Il passe par la France. Il est avec Benjamin. Et puis Benjamin va se suicider, lui, en Espagne. Lui va pouvoir passer effectivement aux États-Unis. Et en fait, il va.
Par le réseau de Marseille ou
Alors, je ne sais pas si ce n'est pas le réseau de Marseille.
Parce que c'est celui que voulait emprunter Benjamin.
Ouais, c'est celui que voulait emprunter Benjamin. Je ne sais pas si c'est celui-là. Bah, il va finir par lui, effectivement, réussir à s'en sortir, notamment grâce à Adorno, qui était déjà lui sur place, et qui lui trouve un poste, même si ça va être compliqué quand même pour lui. Mais du coup, si tu veux, il est pas sorti du sable hein, en 41. Donc en fait, il essaie de se relire, si tu veux, toute cette production de films des années 20 et 30 à la lumière de ça. Bon, et je te dis avec ce côté-là. Et alors encore une fois, c'est un choix, si tu veux, de rapport à l'image, au film, et puis tu vois, à l'esthétique du film. Mais je trouve que ça fonctionne. En tout cas, c'est séduisant, quoi. Si tu vois, par rapport à ce genre de film-là, si tu revois des films comme Nosferatu, Le Cabinet du Vampire, Le Cabinet du Docteur Caligari, les premiers films de Fritz Lang, donc le docteur de Mabuse notamment, toute cette série-là, qui sont des films muets, en noir et blanc. Gros travail sur l'image, donc effectivement t'es dans un monde qui est absolument pas réaliste, t'as pas du tout ce contrat-là. En tout cas, c'est ce cinéma-là qui l'intéresse lui, et ce qu'il va en sortir après, et là, y compris la manière dont les films ultérieurs vont se positionner par rapport à ce moment-là. Bah c'est à côté, enfin moi ça m'a bien plu si tu veux, et ce qu'il va enregistrer lui, c'est des espèces de situations typiques et de personnages un peu typiques et de problèmes, du coup des espèces de problèmes qui vont émerger dans le cinéma à ce moment-là, pas que dans le cinéma, mais qui sont des espèces de représentations, hein, on va dire, de problèmes qui sont en fait internes à la société allemande, à la mentalité allemande, pourrait-on dire, à la situation historique dans laquelle se retrouve l'Allemagne dans ces années-là, et situation de blocage, d'incapacité donc justement à mener à bien une révolution communiste et à mettre en place une démocratie et à assumer en fait les libertés politiques et un système politique dans lequel justement les individus ont des droits et les assument comme tels. Alors ça, c'est propre de l'Angleterre et de la France qui ont fait leur révolution. Hein. On est dans un schéma un peu marxiste. Et l'Allemagne n'arrive pas à faire ça. Elle est incapable de faire ça. Ça foire. En 18, il y a une tentative avec le spartakisme qui foire. Et derrière, on va retrouver quoi ? Une espèce de réaction et de retour de toutes les structures autoritaires et ressentimentales qui sont, qui gisent en fait dans la mentalité allemande et qui viennent de cette incapacité en fait finalement et de la conscience qu'on est incapable d'aller au bout de ce projet de liberté politique et d'assumer effectivement un système démocratique réel quoi. Et donc effectivement, comme il y a cette situation de blocage, ce qu'on va voir émerger, c'est une espèce de dualité entre des figures d'autorité tyrannique qui vont émerger comme une espèce de solution à l'inverse, c'est-à-dire une situation d'anarchisme chaotique. Voilà. Et ça, c'est un dispositif qui émerge à partir du cabinet du docteur Caligari. Alors, t'as ça, donc il y a avec une opposition entre très rapidement le pitch du film. En fait, on s'en fout un peu, mais l'histoire, les péripéties, on s'en fout. Mais le pitch, faut l'avoir en tête. C'est quoi ? C'est un hypnotiseur. C'est un film sur un hypnotiseur. Donc, on a encore ce thème de l'hypnose là. Un hypnotiseur qui hypnotise en fait un simple d'esprit et qui lui fait commettre des meurtres. Et il y a une espèce d'enquête qui a lieu, et en fait on découvre effectivement à la fin que la culpabilité de l'hypnotiseur, sauf que en fait, donc ça pourrait être une espèce de récit un peu de liberté, tu vois, on libère effectivement la victime de l'hypnotiseur et qui est poussée au crime en quelque sorte par un manipulateur, mais sauf qu'en fait ce récit là il est inscrit dans une espèce de récit cadre qui débute et qui finit dans un asile, c'est-à-dire qu'en fait c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou, et c'est filmé comme ça. Et donc, en fait, la libération de la victime de l'hypnotiseur est en fait un délire de fou. Voilà. Alors, et la façon dont c'est filmé, donc donc c'est pas une histoire de liberté en fait. C'est pas une histoire de liberté. Et à la fin, t'as une espèce de confusion un peu bizarre entre le personnage de l'hypnotiseur et le directeur de l'asile. Voilà. Donc c'est une espèce de délire en fait, voilà, qui est filmé comme ça. Donc c'est pas une histoire de liberté, alors que ça pourrait tout à fait en être une. T'as un mec qui manipule les foules, qui les hypnotise et qui leur fait faire commettre des crimes. Voilà, bon, pas besoin de préciser trop l'allégorie. Et puis t'as tout un système comme ça où t'as l'asile finalement.
Sauf que c'est 19 ce film.
Ah, c'est 1920. C'est très très tôt. Okay. Et par contre, ce que t'as déjà marquant, c'est effectivement cette espèce d'échec en fait du coup de la libération. Et cette espèce de dualité entre, du coup, un tyran qui finalement, tu vois, reste en place à la fin. Et qui n'est
c'est
pas,
hypnotiseur c'est... ou directeur, le tyran ?
Ben, on sait pas, voilà, on sait pas. Mais en tout cas, c'est un tyran, c'est une figure d'autorité tyrannique, voilà, et malsaine, hein, voilà. T'as ça, et en face, l'échec de ceux qui cherchent justement à rétablir un peu la vérité, la liberté dans cette affaire-là. Et ça se passe, l'enquête se passe dans une fête foraine. Et la fête foraine, c'est vraiment, c'est le souk, quoi. Voilà, tu vois, c'est le souk, le souk chaotique. Et donc, il voit, alors, peut-être qu'il surinterprète un petit peu, si tu veux, mais c'est une manière, en fait, pour lui de. C'est une lecture allégorique, en fait, hein, tu vois, qui fait du film et des personnages. Et donc, on a là un dispositif qu'on va retrouver après dans tout, plus ou moins, dans tous les films derrière, notamment cette espèce de dualité entre le tyran et le tyran ou le chaos, quoi. Voilà, le chaos, et qui du coup effectivement ne trouve sa solution que par l'émergence d'un tyran. Donc après, tu as le personnage de Mabuse, évidemment, dans la série des Mabuse de Hitler, pareil, hypnotiseur, voilà, magnétiseur.
Mabuse de qui tu as dit ?
De Fritz Lang, pardon.
De Fritz Lang, oui. Et bravo, le point Godwin là.
On y vient. Hitler était fan, pas de Mabuse, mais de Metropolis.
Ah bah, sans dire sur Fritz Lang, tiens.
Eh ben oui, mais ça en dit long. Ben oui, mais ça en dit long sur Fritz Lang. Et alors, d'ailleurs, c'est pas un de ses chouchous, Fritz Lang. Même si c'est il reconnaît que c'est un grand cinéaste. Mais donc, effectivement, c'est une figure qu'on va retrouver après, voilà, dans le film, qui traverse comme ça la production cinématographique allemande avec ce jeu. Et donc, c'est alors bon pour finir sur cette présentation, c'est peut-être pas une très grande histoire du cinéma, c'est peut-être pas un grand ouvrage de psychologie, mais par contre, c'est un livre de critique. Historienne, on va dire, du cinéma de ces années-là, qui est très, très agréable à lire. Super fourni, tu as une filmographie, je sais pas, il y a au moins 200 ou 250 titres qui sont passés en revue, dont un paquet de chefs-d'œuvre. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais en fait, tu en as plein d'autres. Hein, voilà, Loulou de Pabst, voilà, l'Opéra de Katsu, le L'Ange Bleu de Sternberg, toute la série des Fritz Lang. Donc voilà, il y a les Mabuse, il y a évidemment même Le Maudit, les Nibelungen, voilà, Siegfried aussi. Et en fait, il finit avec le cinéma nazi, c'est-à-dire avec Riefenstahl. Et puis avec et il montre comment effectivement ça c'est l'effet un peu entonnoir du bouquin que j'aime pas trop, effectivement, comment en quelque sorte c'est une espèce d'aboutissement et de solution, tu vois, à cette dialectique irrésolue, voilà, des 20 premières années. Mais voilà, donc sur le dispositif et sur le titre et sur la manière de penser et de parler du cinéma. Voilà.
On va faire une pause musicale et on se retrouve après.
Nous marcherons ensemble dans les rues de Berlin. je sifflerai un air que chacun connaît bien. À l'aide de l'âme, je libérerai ton âme, je te ferai t'enfuir par-delà le délire. Poursuivi par mon ego maudit.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour cette deuxième partie. Vous venez d'entendre un morceau Prime Sautier, les visiteurs des visiteurs du soir, qui s'intitulait Le Maudit. Évidemment, cela n'a aucun rapport avec le cinéma allemand des années 20 à 30. Dans ce livre que Jean-Mathias ne nous présente pas,
si ce n'est que... Le petit leitmotiv.
C'est ça, le petit leitmotiv du film de Fritz Lang. Et donc Jean-Mathias, ce soir, nous présente le livre d'un marxiste mou, Siegfried Krakauer, qui s'intitule de Caligari à Hitler.
Marxiste souple.
Donc un marxiste mou, comme je disais. Oui, ce marxiste échoue lamentablement à articuler clairement l'infrastructure et la superstructure. Pour nous montrer à quel point l'économie détermine la culture. Mais en réalité, c'est sans doute mieux, parce que les marxistes durs, qu'on va opposer aux marxistes mous ce soir, dans une distinction absolument ébouriffante, sont très souvent, malheureusement, dogmatiques, et nous n'aimons pas les dogmatiques, parce que les dogmatiques ont tort, c'est bien connu. Et donc, Jean-Mathias, je vois compulser frénétiquement le livre, sans doute pour contrecarrer mes accusations de marxisme mou. Et donc, tu nous disais que le prisme à travers lequel toute cette période du cinéma allemand des années 20-30 va être interprétée, c'est ce film de 1920, Le cabinet du docteur Caligari.
De Robert Bienet,
ouais. Ouais, où on voit donc comment une espèce de génie du mal hypnotise un simple d'esprit pour lui faire commettre des crimes. Et tu disais que c'était en quelque sorte à travers ce prisme que Krakauer, dans son livre de Caligari à Hitler, qui a été republié en France là récemment et qui date de 1947. 1947.
Avant ça, je crois que c'est...
J'ai vu la date de publication, 1947, mais après peut-être qu'il a commencé à l'écrire plus tôt. Ouais. Mais bon, en gros, ça nous donne une idée de la période. Mm-hmm. Et donc, tu disais que c'était à travers ce prisme-là qu'il voyait toute la décennie du cinéma allemand et qu'il essayait de, avec plus ou moins de succès, en tant que marxiste mou, de montrer une dialectique qui aboutirait à montrer finalement le succès du nazisme aussi au cinéma.
Bah, en fait, si tu veux... C'est encore une fois ce que je te dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a plusieurs manières de lire ce bouquin-là. En fait, on peut le lire de plusieurs manières. C'est-à-dire que tu peux le lire en historien, et là, dans ce cas-là, effectivement, tu vas pas trouver, enfin, à mon avis, pas trouver grand-chose, parce que si tu veux, c'est une période. Alors, il propose une périodisation de son truc, c'est-à-dire qu'effectivement, donc, il va chercher, alors d'abord les racines de ça, de ces thèmes en fait, d'une conscience malheureuse qui est propre, conscience de ses limites, de son caractère régressif, de son espèce d'enfermement dans l'échec et dans l'impossibilité à assumer justement une liberté pleine et entière, et la manière dont en fait ces personnages-là sont toujours menacés d'une espèce de désintégration psychique, si tu veux. Donc il y a quelques films avant la guerre, effectivement, Le Golem notamment, il cite des films comme ça de réalisateurs qui pour le coup sont très assez pointus, mais c'est en germe, si tu veux, derrière dans la production cinématographique. Il montre comment Caligari, si tu veux, te fixe ça de manière extrêmement claire, voilà. Et après, effectivement, il va périodiser à partir de là, donc avec une espèce de prolongement de ces thèmes-là dans la vague expressionniste. Puis, en fait, après, une espèce de réaction par rapport à ça, ça me donne toujours une espèce de schéma un peu dialectique, un peu carré. Une réaction plus réaliste, au contraire, de ça. Alors, ça, c'est dans le courant de ce qu'on a appelé la nouvelle objectivité, voilà. Et mais qui a sa traduction, justement, dans l'œuvre cinématographique de Pabst, justement, avec des films voilà, vraiment extraordinaires. La rue sans joie, par exemple, le journal d'une jeune fille malheureuse, une adaptation de l'opéra de Katsu de Brecht, Les Amours de Jeanne Nere. Tout ça sont des films qui sont alors qui sont en fait assez peu connus, et parce que Pabst, je le disais, donc c'est celui qui lui s'inscrit dans ce courant de la nouvelle objectivité, une forme de réalisme en fait cinématographique. Plutôt Sosdem, hein, lui, il a
pareil, la nouvelle objectivité, c'est un peu comme l'expressionnisme allemand, ça lui succède.
C'est très large.
Ça va regrouper ça va regrouper la peinture,
la poésie, du graphisme,
les films,
philosophie même, tu pourrais dire. Il y a des courants, des auteurs comme Neurath ou des gens comme ça sont pas très très loin de ça.
Non, ils participent.
Ils participent.
Il y avait une expo à Beaubourg sur la nouvelle objectivité.
Et donc avec cette espèce de vocation un peu, une espèce de langage universel, de langage graphique universel, là par exemple.
Comprendre l'économie à tout le monde.
Voilà. Donc, t'as ça. Et lui est social-démocrate, Pabst. Il va être responsable, d'ailleurs, d'une espèce de syndicat, en fait, des réalisateurs allemands, très marqué à gauche, etc. Mais, en fait, il va avoir un destin, après, un peu plus trop, puisque, du coup, il revient, si tu veux, en Allemagne, après. Ça lui a flingué sa réputation, à raison, parce qu'il a trouvé, après, il a tourné des films sous Hitler, etc. Donc, il y a cette espèce de tournant réaliste-là. Et puis, après, il montre comment, si tu veux, ce tournant réaliste échoue à devenir vraiment communiste et enthousiaste comme les Russes l'ont fait. Je schématise, mais c'est un peu ça. Et du coup, à partir de là, bah, ça part en sucette. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est un cinéma d'épopée un peu nationaliste qui va se diffuser. Des films de montagne, des films de guerre avec des héros individualistes, malheureux, revanchards, seuls, uniques, etc., qui vont finalement arriver à attendre de manière lancinante l'arrivée d'un tyran qui remettra un peu les pendules à l'heure, quoi. En gros, schématisme, mais c'est un peu ça. Donc, si tu lis ça comme ça, une périodisation, bon, pourquoi pas, après, je veux dire, moi, je suis pas spécialiste, faudrait voir, comparer, voilà, etc. C'est pas forcément ce qui est le plus passionnant, cette affaire-là. En revanche, ça te permet de redécouvrir des œuvres comme ça qui considèrent lui comme des espèces de points marquants qui fixent, si tu veux, à un moment donné, voilà, les thèmes ou les questions ou des problèmes intéressants du point de vue social, politique, affectif, imaginaire, voilà, de la mentalité allemande. Alors bon, on n'aime pas les analyses un peu macro comme ça, mais déjà, ça te permet de redécouvrir toute une filmographie qui est pas forcément, tu vois, voilà, qui commence à s'éloigner un peu dans le temps, ouais, hein,
qui est colossal, si qui est colossal. Plus, va donner naissance aussi, va être une des origines du cinéma américain.
Absolument.
Des années 40-50.
Alors, en tout cas, ils ont pompé allègrement, à partir de 33. C'est-à-dire qu'ils ont pompé effectivement la quintessence, si tu veux, de du génie des réalisateurs allemands. Donc Lubitsch, on en a parlé. Oui. Alors Lubitsch, il n'aime pas trop, parce que Lubitsch est un cynique psychologisant, d'après à ses yeux, et qui prend pas, en fait, qui prend pas ni les sentiments, ni les problèmes qui se posent, les problèmes sociopolitiques vraiment au sérieux, hein, qui est une espèce de farce un peu cynique, et alors avec du brio, hein, donc voilà, c'est quand même le génie des dialogues de Lubitsch. Mais Lubitsch va partir en Allemagne assez vite, hein, 24-25 là, pour le coup.
Il va partir d'Allemagne,
aux États-Unis, pour Hollywood. Murnau, c'est pareil, hein, l'horreur de Murnau, qui est considéré comme un des plus grands films du cinéma muet, donc ça doit être 28 ou 29. Aurore, et c'est plus tourné en Allemagne, quoi, voilà, donc il finit sa carrière à Hollywood. Donc Pabst, il fait des films avec les Français aussi, hein. il y a le cinéma français qui est là, mais en gros, si tu veux, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il va juger l'esthétique et la réussite des films par rapport à ce qu'il considère lui comme sa norme à lui, c'est Eisenstein, donc c'est le cinéma de propagande brillant, soviétique, et Ziga Vertov, donc le cinéma vérité, évidemment. Mais c'est intéressant de voir, si tu veux, comment tout ça communique vraiment après, à 15 jours près, hein, chronologiquement. C'est-à-dire que tu vois, t'as l'homme à la caméra de Ziga Vertov, qui est une espèce de film d'avant-garde extrêmement célèbre, que vous pouvez voir sur YouTube. Voilà, en accès direct là-dessus, qui est une espèce où il filme, en fait, c'est intéressant parce que c'est un film sur Odessa, notamment, et en fait, c'est là, il filme une ville, mais une ville soviétique, c'est-à-dire une ville qui vient de connaître la révolution, et donc t'as effectivement une espèce de souffle et d'audace formelle, c'est très avant-gardiste, donc voilà, les zooms, les plans, la sortie des tramways du dépôt, une espèce de balai mécanique comme ça dans les usines, dans les commerces, dans les rues, c'est assez impressionnant visuellement quand même, faut bien le dire. Et surtout, tu as effectivement cette espèce de souffle, le côté table rase et le côté, voilà, l'avenir nous appartient et l'avenir est ouvert. Et c'est vrai que c'est un truc que tu sens, effectivement, à l'image. Et il dit que les Allemands sont jamais capables, en fait, de faire. Ils font des du point de vue formel, ils arrivent à faire des trucs très intéressants et qui se rapprochent vraiment de ça. T'as un truc qui s'appelle Berlin, la symphonie d'une grande ville, notamment, qui est un film extraordinairement impressionnant aussi, très beau, très, très stylé, très, voilà, avec un jeu, une inventivité formelle dingue, en fait. Mais ça te montre une ville pépère et coincé en même temps dans son fonctionnement, dans ses aspirations et dans ce et donc t'as le enfin en tout cas c'est comme ça que lui le vit et le voit le film. Donc cette espèce de voilà de navette, tu vois, qui va faire entre son cinéma de référence pour lui, alors c'est pareil, on peut en discuter, moi Eisenstein, je suis pas toujours fan de tout, mais enfin c'est une espèce de cinéma, voilà, d'esthétique réaliste, optimiste, enthousiaste, d'après lui démocratique et assumé, revendiqué, et qui en même temps voilà lésine pas sur les moyens, sur l'efficacité, tu vois, de la du discours qu'elle porte et de la propagande qu'elle va porter à l'écran, des personnages, des héros positifs, des héros très négatifs, des héros enthousiastes, porteurs d'avenir et tout ça. C'est à l'aune de cette esthétique-là, du coup, effectivement, il lit le cinéma allemand, mais moi, je trouve que ça lui donne presque un certain charme, ce cinéma allemand un peu coincé, un peu pessimiste, un peu... Et il tourne beaucoup autour de cette thématique-là. Si tu veux, l'idée qu'en fait, c'est comme ça qu'il lit la nouvelle objectivité, donc cette espèce de recherche d'avant-garde qu'on trouve dans le cinéma. Donc Pabst, alors c'est des... Voilà, si tu prends ça, la rue sans joie, par exemple, alors là, le pitch, tu vas comprendre très vite, c'est en fait deux jeunes filles qui meurent de faim, en fait, parce que le boucher, en fait, est un affameur, et qu'en fait, il donne de la viande contre des sommes voilà, faramineuses, ou contre voilà, les caresses des jeunes femmes qui lui plaisent. Donc elles sont poussées effectivement par la misère, voilà, à ça, et puis après il y a une espèce de révolte contre ça, et puis en même temps elles peuvent pas y échapper, et donc c'est des films qui sont très crus, très très crus sur effectivement les inégalités, la misère, les inégalités, parce qu'effectivement t'as toujours aussi ces scènes, voilà, d'opulence quasi orgiaque, tu vois, de la classe qui se gave, effectivement, dans l'Allemagne des années 20, voilà, entre 19 et 23, t'as une inflation à 23, à 20, à 3 chiffres, hein, c'est hallucinant, et donc bah, effectivement ça transparaît, hein, ça transparaît beaucoup dans les films, dans les thèmes, dans les histoires, et Pabst en même temps il rend bien compte de ça d'après Krakauer, mais il va jamais vraiment au bout. Alors tu sais jamais trop pourquoi en fait il lui reproche ça, parce qu'en fait il le montre, il le dit, il l'explique, il montre, tu vois, l'espèce de corruption morale qui va avec ça en quelque sorte, mais en fait il lui reproche d'être un moraliste, quoi, voilà, d'être un moraliste et de pas être suffisamment un révolutionnaire, suffisamment enthousiaste, voilà. Et mais je te dis, voilà, par contraste, ça fait ressortir des films comme ça et ça leur donne, moi je trouve, un charme et un intérêt supplémentaire, en fait, voilà. Donc c'est moi je l'ai picoré un peu comme ça, voilà, si tu veux, hein. Donc découvrir, voilà, ces espèces de films qui sont des films marquants dans l'histoire du cinéma en général, mais qui sont un peu lointains, et puis qui, voilà.
Et est-ce qu'ils s'intéressent à ce que tu dis, que des hits, en fait?
Non, pas du tout. Non justement.
Ils s'intéressent aussi au cinéma un peu plus commun.
Exactement. Ouais, et mainstream, tout à fait.
Mainstream, ouais, ouais,
complètement, complètement, complètement. Ouais. Et c'est aussi il se mange, voilà, une filmographie dingue. Sur le moment. Et puis après, en fait, il revoit tout, hein, dans les musées du cinéma et les cinémathèques, américaines, qui stockent ça. Donc t'as les grands films, voilà, j'en ai évoqué quelques-uns, ouais. Voilà, tu vois, il finit sur L'Ange Bleu, évidemment Metropolis, évidemment M. Le Maudit, évidemment Les Nibelungen pour tout ça de Fritz Lang, donc de Pabst, voilà, l'Opéra de Katsu, j'ai cité ça, La Rue sans joie, très connu, Murnau, il y a Le Dernier des Hommes, Nosferatu, d'abord, puis Le Dernier des Hommes, qui est un film, là aussi, sur un portier d'hôtel, alors c'est un portier d'un palace, et qui est un portier extrêmement fier, si tu veux, de son uniforme, de sa livrée, et qui passe sa vie en fait sur la porte tournante, tu vois, l'entrée de l'hôtel, qui est filmée comme une espèce de voilà de sas, tu vois, de sas social et de sas, voilà, et lui il est tout fier de ça, et puis à un moment donné il commence à tirer un peu la langue parce qu'il est vieux, tu vois, et le majordome de l'hôtel le repère ça et du coup l'envoie remplacer Adam Pipi, et il lui retire sa livrée. Et en fait, c'est toute la vie du mec, du coup, s'effondre. C'est avec son prestige social, ça, son statut social. Il est lui-même, il vit dans les quartiers pauvres de Berlin et il est reconnu parce qu'il a la livrée. C'est l'autorité un peu morale, si tu veux, du quartier, du bloc d'immeubles, etc. Et là, sans sa livrée, du coup, il n'est plus rien. Donc, il va mentir. C'est-à-dire qu'il va cacher sa livrée, il va pas le dire, il va dissimuler le truc jusqu'à ce qu'il soit découvert. Donc là, c'est le cinéma de l'humiliation, tu vois, de l'humiliation sociale. Et donc, évidemment, les gens qui l'admiraient et qui admirer sa générosité, sa solidarité et puis son autorité paternaliste un peu bienveillante dans le quartier, ils vont être les premiers à lui cracher dessus, etc. Et donc il montre tout ça, si tu veux, Murnau, là, dans Le Dernier des Hommes, qui est un film assez extraordinaire, parce que c'est un film qui doit faire près de 2 heures, et je crois que dans mon souvenir, il y a 2 intertitres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des trucs qui sont... C'est des réalisations... c'est une maîtrise du montage et du scénario visuel, si tu veux, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que t'as pas une phrase, t'as 2 commentaires dans le film. Voilà. T'as 2 commentaires dans le film, t'as 2 intertitres, et sinon, toute l'histoire est portée par le cadrage et le montage. Point. Et c'est des trucs... En fait, tu vois, c'est une maîtrise de la poésie, je dirais, cinématographique qui est assez dingue. Alors ça, c'est voilà, donc t'as ça. Alors de ce point de vue-là, t'as aussi un personnage qui sert un peu de fil rouge tout au long du livre, qui est justement un scénariste qui s'appelle Karl Mayer, qui est un Viennois, lui aussi, un juif viennois, un peu comme Fritz Lang, qui n'était pas d'origine berlinoise non plus, encore. Et donc Karl Mayer, c'est d'une certaine manière, il y a un article effectivement qu'on avait trouvé là. Il disait que d'une certaine manière, le livre était une espèce de tombeau de ce type-là, un tombeau sans dommage, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est une figure que tu trouves dans tous les films clés et qui arrive comme ça, voilà, à te capter en virtuose, voilà, des situations ou des affects ou des qui sont d'après Krakauer, voilà, significatifs ou allégoriques de l'état de la société allemande à un instant donné, et qu'il le fait avec une espèce de sensibilité et d'humanité, si on peut dire, si tu veux, qui maîtrise parfaitement à l'écran et au montage. Et donc tu as cette figure de ce gars-là qui a travaillé pour Murnau, qui a fait tous les grands films de Pabst aussi, qui a pas travaillé avec Lang, parce que Lang travaillait avec sa femme et scénarisait lui-même ses films, mais voilà, notamment sur les films de Pabst, ses grands films, et ceux de ce Murnau, tu retrouves ce personnage qui lui va mourir en fait dans la misère pendant la guerre à Londres. En fait, il s'enfuit pareil, et tu vois, il est décrit, c'est un des rares personnages qui est décrit en tant que tel, si tu veux, dans le livre à un moment donné, notamment sa fin à Londres là, et tu sens qu'effectivement il y a une vraie tendresse du gars sur lui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une époque, je parlais de poèmes là, visuels, si tu veux, de poèmes cinématographiques, t'as vraiment ce sentiment là, c'est-à-dire que c'est propre au cinéma muet, effectivement, c'est techniquement, c'est beaucoup plus exigeant, si tu veux raconter une histoire sans mots et sans parole, c'est évidemment. Mais
c'est-à-dire que ça pardonne pas.
Exactement.
Si ton montage est raté, et ben voilà, personne ne comprend
rien. Tu comprends rien et
tu peux pas corriger. Exactement. En mettant un personnage qui raconte l'histoire, histoire que tout le monde raccroche les wagons.
Tout à fait. Et là, t'as effectivement quand même, t'as effectivement un sacré paquet de chefs-d'œuvre, quoi. De chaque quand tu le relis. Alors c'était même chose. Fritz Lang, qu'il aime pas beaucoup, parce qu'il trouve que Fritz Lang est un peu petit bourgeois et qu'il est un peu ambigu. Alors il est même plus qu'ambigu. Hein, la conclusion de Métropolis, elle est carrément l'alliance entre la main du travailleur et le cœur, voilà,
le cerveau du patron, le cerveau et le cœur de la femme. C'est carrément social traite, ça.
Ah bah c'est plus que social traite, c'est national socialiste, quoi. Et c'est la conclusion de Métropolis, alors que Fritz Lang lui-même a ensuite rejeté, hein. Métropolis, qui est un film ahurissant en fait, jusqu'à la conclusion comprise, hein. Après politiquement c'est de la merde, mais par contre visuellement c'est extraordinaire. Ah oui. C'est un film qui est complètement hallucinant, cette espèce d'utopie moderniste. Bon, puis il y a des effets, les gars inventent tout, c'est-à-dire qu'ils inventent les genres, ils inventent les situations, ils inventent les effets spéciaux, ils inventent les trucages. Alors bon, t'as déjà Méliès avant ça, hein, mais là ça prend effectivement une proportion quasi industrielle, et effectivement tu sens ça assez fortement. C'est à la fois il est pas élitiste du tout, c'est-à-dire qu'effectivement il s'intéresse au film mainstream comme tu disais. Et en même temps, tu sens qu'effectivement, il est admiratif de ça, et que tu touches à une espèce de le cinéma comme poésie pour les masses, quoi. Là, il y a un côté un peu comme ça. C'est à la fois de la poésie, en même temps une espèce de symptôme, hein, comme on disait, des fantasmagories qui traînent un peu partout. Voilà, et donc ça rend le livre, moi je le trouve très très agréable à lire. Voilà, selon les, parce que c'est un livre à plein d'entrées en fait, voilà, que tu peux lire de plein de manières différentes.
Voilà. On va faire une dernière coupure avant de reprendre pour la troisième et dernière partie. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous venez d'entendre un morceau sélectionné avec soin par José, de Mozart, le grand cinéma. C'est extrait, voilà, on copie, on renvoie des ascenseurs, hein, normal. C'est extrait de Entre Mozart et les grands sauriens, Christophe Rémiot, des Oreilles Libres, qui passe aussi sur RL. Et donc Jean-Mathias nous présentait dans de grands monologues de marxistes mous, un livre de Krakauer qui s'intitule De Caligari à Hitler, où on présentait un petit peu le cinéma allemand des années 20-30, avec une thèse assez forte, qui est l'idée que le cinéma allemand de cette époque reflèterait en quelque sorte l'évolution politique de l'Allemagne entre l'échec de la révolution de 18 et l'arrivée au pouvoir de Hitler en 33. Et donc nous, on attendait avec impatience, avec José, là, il trépigne, que tu parles des films de nazis, pour voir un petit peu comment toute cette belle dialectique se boucle.
Je vous reconnais bien là.
Et comment on arrive finalement du cinéma expressionniste au cinéma de propagande de Riefenstahl et de ce genre de gens. Alors toi, évidemment, tu bottes en touche, ouais. Évidemment, et tu veux nous lire des passages, bon.
Ok.
Est-ce que tu veux pas te forcer, quoi.
Non, vous n'allez pas me forcer.
Mais on essaye pourtant. Hein.
Non, mais en fait, juste pourquoi je veux pas le situer. En fait, il en parle très peu, en fait, des films probablement directement nazis, si tu veux. Ouais. À la fin, t'as un supplément dans le bouquin là, voilà, qui s'appelle La propagande des films de guerre nazis. Donc, je te conseille d'aller le lire si c'est des choses qui t'intéressent.
Non, je veux que tu m'en parles.
Non, mais c'est le supplément est hyper intéressant en plus. Mais après, si tu veux, quand il va parler effectivement des films nazis, ce qui l'intéresse, c'est du coup, c'est plus l'esthétique ou la poésie, tu vois, cachée, implicite, ou tu vois, de ce qui est mis en scène. Ce qui va l'intéresser, c'est d'essayer de comprendre l'efficacité, en fait, tu vois, du cinéma nazi, notamment des films d'actualité, du cinéma de propagande, puisque le cinéma nazi, il est entièrement au service de la propagande. Et donc, en fait, c'est des analyses, mais qui sont intéressantes, mais qui sont moins, enfin, moi, qui me surprennent moins. Si tu veux, c'est sur le rôle de la répétition, le rôle de l'amplification. signification, le rôle de voilà le qu'est-ce qu'on laisse dans le flou et qu'est-ce qu'au contraire sur quoi voilà on a si on tire à gros traits.
Il faut montrer un lien entre ce qui précède.
Alors, t'as pas de lien esthétique parce que de toute façon une fois que les nazis sont au pouvoir voilà il y a plus de production culturelle digne de ce nom si tu veux justement t'as plus d'inventivité t'as une propagande effectivement à visée manipulatrice hein.
Rivenstein elle invente des procédés
cinématographiques
du stade en gros
elle invente alors d'après lui ce qu'il voit c'est des choses qui sont ce qui l'intéresse c'est de voir comment elle va emprunter et amplifier en fait des trucs qui ont été
déjà utilisés
en fait lui il voit des choses qui sont déjà présentes notamment dans les films de Fritz Lang qui vont chercher si tu veux dans les profondeurs de la culture traditionnelle allemande donc voilà ou nordique tu vois donc les Nibelungen la légende de Siegfried et alors en fait c'est des types de héros ou des types effectivement de rapport au décor ou de rapport aux objets par exemple la manière de effectivement ça c'est un des thèmes qui l'intéresse et que je trouve aussi toujours riche quoi c'est sur le terme de l'ornement et la place de l'ornementation au détriment du contenu affectif politique ou social d'une histoire d'un récit d'un personnage ou d'une scène et en fait il dit que Fritz Lang est un des premiers notamment dans les Nibelungen à avoir en fait fait passer l'ornement c'est-à-dire la forme du décor par exemple tu vois ou l'organisation je sais pas quand il te montre une armée c'est la manière dont l'armée est organisée avec un anonymat absolument complet des personnages et avec si tu veux une espèce de mise en avant justement d'une espèce de forme de masse qui est pas pensée justement dans ses conséquences réelles ou tu vois ou dans son pouvoir meurtrier ou dans l'idéologie au service de laquelle non mais qui est avec une espèce de dérive esthétisante en quelque sorte qui est présentée de cette manière là et ça en fait si tu veux ce qui va être mis en avant après dans les films de montagne d'abord avec un héros solitaire qui gravit des sommets qui dépasse ses propres limites etc l'insistance à filmer les nuages par exemple le mouvement des nuages aussi les nuages en général le plus souvent en rasé sur un sommet pour te montrer la taille de l'exploit à accomplir ou de l'exploit accompli par le héros ce genre de choses donc t'as comme ça un certain nombre d'analyses qui sont là et qui sont alors oui il y a une créativité dans le sens où effectivement ça va être mis au service d'une propagande et ça va être systématisé en fait si tu veux mais il voit à partir du moment où t'es dans la propagande t'es dans justement quelque chose qui perd de son inventivité parce qu'elle a servi à un but précis si tu veux et donc elle est plus ouverte à l'interprétation elle échappe plus tu vois au réalisateur elle est plus livrée non plus à l'imagination du spectateur et donc ça l'intéresse un peu moins c'est plus une analyse technique qu'il fait si tu veux sur la fin et du coup c'est très intéressant mais c'est pas ce qui m'a intéressé le plus donc je te conseille ce supplément à la fin là supplément sur la propagande des films de guerre nazie où tu si c'est des questions qui t'intéressent à la technique faut pas te priver. Le pauvre et qui oui c'est vrai qui fait Eisenstein si parce que si tu veux c'est un peu contradictoire parce que Eisenstein c'est vraiment le film de propagande aussi par excellence
après, sauf que différentes
il y a plusieurs périodes c'est si ça, tu veux et puis Eisenstein c'est de la propagande mais du bon côté d'après lui donc si tu veux ça ne peut pas être que de la propagande
c'est aussi de l'art c'est ça un peu
bien sûr il y voit c'est ça l'idée alors bon après si tu veux c'est le bon même chose sur Vertov ou des gens comme ça pas obligé d'être d'accord avec tout sur lui là-dessus mais je te dis encore une fois c'est pas tellement son côté un peu téléologique là qui m'a le plus convaincu par contre les passages sur tel point plein de passages intéressants sur par exemple des types de personnages il dit par exemple les cinémas allemands a eu vachement de mal à mettre en scène des personnages de détectives parce que le détective en fait c'est une invention anglaise à la limite tu peux trouver des versions françaises le détective en fait c'est l'incarnation c'est l'allégorie de la rationalité c'est celui qui va dissiper comme ça les brouillages l'étoile d'araignée obscurantiste tu vois ésotérique etc. Sherlock Holmes
c'est la déduction
exactement
à partir d'observation empirique
alors que
l'intuition allemande elle
et donc si tu veux c'est des personnages donc voilà que ce soit Conan Doyle ou tu vois la version Arsène Lupin à la française En fait, ça, c'est des héros qui fonctionnent dans des pays de culture démocratique et petite bourgeoise. Il le dit pas, mais en gros, c'est ça. C'est, tu vois, c'est l'idée où, effectivement, où la rationalité peut réellement être efficace et peut réellement aboutir à quelque chose, quoi. Les Allemands, c'est pas trop leur truc. Alors, ils en font, ils en reprennent, mais c'est toujours noyé dans tout un tas de, tu vois, voilà. Donc, il y a Mabuse, alors voilà. Mais on remarque, Mabuse, tu vois, cette espèce de génie du mal, il est pas pourchassé par un détective. Il est pourchassé par un juge. Tu vois, il est pourchassé par un juge, et après t'as des scènes effectivement de tir et tout ça, et il dit voilà, c'est un juge, donc c'est une autorité, et voilà, c'est une figure de l'autorité d'État, en fait, qui va le poursuivre. Il est pas vraiment sympa, le juge, tu vois, c'est pas vraiment un héros positif auquel, tu vois, n'importe quel citoyen peut s'identifier de manière égalitaire ou pas. Donc ça, c'est des choses marrantes, tu vois, sur la figure du meurtrier, c'est pareil. Il essaie de voir comment le meurtrier est manipulé. Donc alors, il y a évidemment le personnage de Caligari au départ, mais t'en as plein comme ça, des espèces de meurtriers automate. Et le meurtrier automate, en fait, c'est quoi d'après lui? Bah, c'est le nazi en culotte courte qui sommeille en chaque petit bourgeois allemand, tu vois, dans les années 20-30, effectivement, qui en a un petit peu ras-le-bol de payer sa baguette tant de ça, ras-le-bol de tous ces communistes qui, voilà, et ras-le-bol de ces juifs, voilà, s'il faut le dire, à partir du golem,
ouais, ah oui,
à partir
du golem,
pas sur l'antisémitisme, effectivement, il montre, évidemment, c'est un sujet qui l'intéresse et qu'il touche, et il montre comment ça émerge petit à petit, sans insister particulièrement là-dessus, mais voilà, donc la figure du détective, la figure de l'assassin, sur le rôle de la manière de filmer les objets aussi, par exemple, vachement intéressant.
Il y a des figures de policiers, parce que...
Ouais, policier, ouais, bien sûr.
Parce que le détective...
Le policier,
alors,
oui.
Le policier,
bien sûr.
C'est une rationalité de droite, comme diraient certains auditeurs.
Exactement.
Mais en même temps...
Que tout le monde apprécie. je reprends le...
En même temps, par exemple, dans le polar américain, le détective, on l'oppose à la police, parce que la police,
exactement,
elle,
exactement,
est de droite, et le détective, c'est quelqu'un qui cherche à établir...
Exactement. Bah, t'as jamais ça. Là, t'as des juges, voilà, donc qui sont des héros d'État, mais qui sont pas des héros très positifs. T'as des policiers qui sont au service des juges, et après, effectivement, quand ça se tiraille, tu vois, quand ils vont arrêter Mabuse, bah, t'as des coups de... Voilà, ça ressemble à quoi? Ça ressemble méchamment au combat de rue, tu vois, contre les Spartakistes dans les années 20, tu vois. Et je pense que c'est pas idiot, ça, ce rapprochement-là, si tu veux, pour lui. Le film, là, le Mabuse, là, les deux premiers épisodes, c'est 24-25. Clairement, tu vois, c'est à peine quelques années après ça. Et donc, tu vois, un combat de rue, tu vois des mecs, effectivement, en impair, avec des chapeaux mous, qui se tirent au pistolet, qui essayent de progresser, tu vois, un peu tant bien que mal, dans une cage d'escalier ou sur un carrefour. Ouais, j'imagine qu'effectivement pour le spectateur de l'époque, ça, tu vois, ça déclenche vite quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est sur les aspects, les intrigues policières, il y a ça. Sur les objets, je te disais, sur les objets, très intéressant aussi, il montre comment t'as tout un travail, effectivement, pour cinéma muet, effectivement, pour construire un décor, alors soit comme mosaïque d'objets inertes, tu vois, comme ça, donc qui va servir de fond, hein, sur lequel vont s'articuler du coup les comportements, le jeu des acteurs ou les scènes, les situations, etc. Mais c'est aussi une manière, en fait, très souvent, de faire ressortir du coup les sentiments et les instincts des personnages, par exemple. Alors bon, j'ai parlé tout à l'heure, un exemple sur lequel il s'attarde un peu, c'est la fameuse porte en tourniquet du palace, là, dans Le Dernier des Hommes, où là, typiquement, t'as vraiment un objet qui fonctionne de manière allégorique, et il y en a plein comme ça, hein, il y en a plein. Tout un tas de remarques aussi sur les films de rue. Les films de rue, alors voilà, il insiste là-dessus sur alors la rue comme le lieu des dangers, ça peut être le lieu de la rencontre, ça peut être, c'est jamais le lieu de la mobilisation, tu vois, ou de la révolution, puisqu'il la foire, leur révolution. Donc c'est le lieu de tout ce que ça peut être, sauf ça, si tu veux, voilà, sauf un lieu de libération collective ou de rencontre et d'émancipation collective. Donc la rue, ça va être, voilà, donc c'est le lieu où tu fais la queue face au boucher, tu vois, voilà, le boucher sanguinaire, c'est un lieu de danger aussi, éventuellement, c'est le lieu des larcins, le lieu de la prostitution, c'est le lieu de la déchéance aussi, c'est le lieu dans lequel tu circules pour aller, voilà, d'intérieur luxueux en intérieur luxueux, quand tu passes d'une orgie à l'autre, tu vois, dans Mabuse notamment, ou dans les films de Pabst aussi, où justement il met ça en scène, et puis c'est aussi un lieu d'hallucination, et t'as un film notamment sur qui s'appelle La Rue, qui est assez extraordinaire de ce point de vue-là, parce que c'est un des premiers films, c'est pas Pabst, je sais plus quel réalisateur, mais qui, pour le coup, te fait... une espèce de film un peu freudien, tu vois, avant l'heure, un peu comme Hitchcock le fera, tu vois, après, tu vois, où il va reprendre les... Je pense plutôt au cabinet de Dr. Edwards, dans lequel, tu vois, t'as les décors de Dali, par exemple. Ah, oui. Les décors de Dali, tu vois, qui sert effectivement à te reconstituer le rêve, qui va permettre justement au détective de trouver le criminel. Donc là, t'as des décors, effectivement, qui travaillent le côté onirique, si tu veux, de la chose. Et donc, dans l'expressionnisme, si tu veux, t'as déjà quelque chose de cet endroit-là. Alors, c'est pas du surréalisme, c'est pas ça, mais c'est une espèce, voilà, on te casse les lignes droites, les maisons sont courbes, t'as des espèces de ruelles tortueuses qui montent de partout, les décors sont peints, donc t'as aucun décor qui sont déréalisés au possible, et dans ce film-là sur la rue, c'est toute la rue, en fait, c'est tout l'environnement, tu vois, qui est comme ça, déréalisé, avec des espèces d'effets de loupe, d'effets grossissants, des espèces de regards surplombants, tu vois, qui sont braqués sur le personnage qui se balade, donc, et il dit qu'en fait, c'est pas un genre, mais si tu veux, c'est une espèce de... T'as plein de films qui vont tourner autour de ça, en fait, qui vont tourner autour de ça, et voilà, la rue est un lieu d'affrontement, de danger, de risque, de déchéance, et c'est la rue allemande de l'époque, effectivement, c'est la rue allemande de l'époque pour lui, et c'est filmé, donc, tu vois, avec cette espèce de côté, je parlais de fantasmagorie tout à l'heure, mais c'est ça qui l'intéresse, quoi, hein, c'est la manière dont ce milieu-là va être...
Il n'y a pas un petit côté Roland Barthes dans l'analyse de certaines mythologies, entre guillemets,
Il y a un côté un peu comme ça, hein. T'as un côté un peu comme ça, hein. C'est vrai que t'as un côté un peu comme ça, mais c'est moins technique, c'est moins chiant que Roland Barthes. Tu vois, pas le côté sémiolo, machin, truc, voilà, bac plus 22. Non, là, c'est plus simple, en fait, comme manière de faire. C'est très érudit aussi, mais du coup, t'as jamais l'impression qu'il cherche à te perdre.
Ou à
t'épater, c'est pas ça, c'est pas ça l'enjeu. Hein. Et donc, il prend les films un par un, il essaye effectivement. Alors, oui, il essaye de les faire rentrer un peu parfois dans son entonnoir, là, de dialectique, mais en fait, il dit tellement d'autres choses et t'apprends tellement d'autres trucs, et puis ça te permet de faire découvrir aussi une filmographie tellement intéressante que ça vaut vraiment le coup, voilà. Et voilà. Et bon, il y a des illustrations aussi, important, parce que ça permet de voir un peu de quoi on parle. On n'est pas obligé d'avoir, voilà, de s'étanquiller
tous les films,
3 ans de ciné-club quotidien avant de comprendre et de voir à peu près de quoi il s'agit. Donc voilà, sur une présentation un peu rapide et un peu décousu, je dirais, de ça, mais c'est parce que je trouve que c'est un livre qui gagne à être lu comme ça, plutôt qu'en espèce de traité un peu théorique de l'histoire du cinéma ou de la psychologie politique du peuple germain.
Voilà. C'était Jeudi Noir, Jean-Mathias nous présentait un livre de Siegfried Krakauer, de Caligari et Hitler, une histoire psychologique du cinéma allemand, édité chez Klinsic. Et on va conclure avec un petit morceau qui a un lien sans doute avec ce dont on venait de parler, puisque ça s'intitule, le groupe s'appelle Gabinete Caligari, donc attention, référence, Como Perdimos Berlin, et c'est un morceau espagnol, Comme nous avons perdu Berlin, de 82.
Oh! Yeah.